Le journal du classique avec Laure Maison depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence, dans le hall du Grand Théâtre de Provence où nous accueillons depuis le début du Festival de Pâques quelques-uns des artistes, des acteurs de cette manifestation. Une manifestation qui a donc aussi un volet solidaire, une riche programmation placée sous le signe du partage et de la transmission, notamment envers le jeune public, ce que nous évoquerons ce soir avec nos invités, la violoniste Solène Loi et le compositeur Marc-Olivier Dupin. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir au public venu nous tenir compagnie ici dans le hall du Grand Théâtre. Un grand merci. Alors Solène Loi et Marc-Olivier Dupin, vous étiez déjà là l'année dernière pour d'autres programmes destinés également au jeune public. Solène Loi, vous avez animé des ateliers pour les enfants. Marc-Olivier Dupin, on a découvert l'année dernière votre crocodile qui avait beaucoup faim. Cette année, c'est le chat du rabbin. La jeunesse, les programmes pour la jeunesse en tout cas, prennent une place de plus en plus importante dans ce festival, mais aussi dans d'autres institutions, manifestations culturelles. Vous ressentez cela comme un besoin, Marc-Olivier Dupin, de former finalement tout simplement le public de demain?
Je ne sais pas si c'est un besoin, mais je crois qu'effectivement beaucoup de lieux de programmation, de diffusion sont intéressés par effectivement un geste en direction des enfants, des jeunes. Et il faut dire que pendant très longtemps, au fond, les deux seules œuvres du répertoire étaient Pierre et le Loup et Piccolo Saxo, et que depuis pas mal d'années maintenant, le répertoire s'est considérablement développé, ce qui est bien.
Ce qui vous fait, Solène Loi, une belle base pour travailler avec les enfants. Vous pouvez sortir de ces contes, même s'ils fonctionnent encore toujours très bien, j'imagine.
Exactement, notamment avec les animaux, ça fonctionne très bien avec les plus jeunes. On peut parler de Pierre et le Loup, du Carnaval des animaux, et pour le Festival de Pâques, le Chat du rabbin.
Voilà, on va en parler justement ce soir des animaux. Alors Solène Loi, vous avez animé ici, comme l'année dernière, des ateliers destinés aux enfants de 6 à 10 ans. Comment est-ce que concrètement vous les sensibilisez à la musique classique? Cela passe par l'écoute, mais aussi la pratique, le toucher, le rapport direct?
Alors oui, c'est ça. J'ai à la fois animé des ateliers dans des classes, donc pour les scolaires, pour les préparer au concert Le Chat du rabbin. Donc là, comme ils étaient en classe, c'est les préparer à comment se tenir dans la salle, ce qu'il va y avoir comme instrument sur scène, pourquoi le compositeur a choisi telle musique. Et puis ensuite, tous les ateliers au Grand Théâtre de Provence étaient à la fois axés sur la découverte des instruments en général pour le royaume de l'orchestre, ou encore où j'ai fait une initiation au violon avec les plus jeunes. Donc c'est très large de dire initiation à la musique, mais on essaye de les initier, de les rendre actifs pendant les ateliers, ce qui est très important pour moi.
Une sensibilisation à la musique.
Exactement.
On ouvre leur imaginaire. Vous fonctionnez, alors on va évoquer les animaux, mais vous fonctionnez avec des thématiques particulières, vous essayez de trouver des liens avec leur propre univers, avec leur quotidien. Comment est-ce que cela se passe pour justement les éveiller?
Alors ça dépend du sujet dont je vais parler, mais par exemple pour Le Chat du rabbin, où j'ai travaillé avec des CP jusqu'à la 6e, il fallait trouver des moyens de tous les sensibiliser à la musique, donc ça passe par différents jeux, donc jeux d'écoute pour découvrir les familles d'instruments, mais on a aussi travaillé sur les émotions, donc je leur ai fait dessiner des manières le chat, par exemple, quand il est, si jamais on écoute une musique joyeuse, comment dessiner le chat. Donc ça passe par tous ces moyens-là.
Et comment les avez-vous perçus, Marc-Olivier Dupin, ces jeunes scolaires qui ont bénéficié des ateliers de Solène Loi lorsqu'ils sont venus écouter notamment cette représentation pour les scolaires, votre chat du rabbin?
Alors écoutez, j'étais très, très agréablement surpris par la qualité d'écoute des enfants pendant le spectacle, ce qui était d'ailleurs le cas l'année dernière aussi, pour le crocodile. Qualité d'écoute, alors c'est assez étonnant parce que quand on dirige, on est donc dos au public, mais en même temps, on sent énormément de choses. Alors, on le sent aussi pour les publics d'adultes, mais là, c'était vraiment très agréable d'avoir cette écoute très, très, très forte et enfin, je pense qu'ils ne dormaient pas tous, j'espère, mais en tout cas, ils étaient très silencieux.
Ils réagissaient aussi. Oui, parce que c'est un public très, très direct, sans filtre, le public des enfants.
Tout à fait.
Et on sent quand ils aiment.
Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils ne réagissent pas du tout de la même façon que les adultes. C'est-à-dire, par exemple, ils ne rient pas au même moment.
Mais souvent, il y a plusieurs lectures dans les contes musicaux. Alors, pour les initier au son de l'orchestre, Solène Loi, vous utilisez beaucoup la métaphore animalière.
Exactement.
Comment est-ce que ça se passe ?
Notamment avec le carnaval des animaux. L'idée, c'est d'abord de leur montrer l'instrument pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Donc, j'ai dans mon sac une flûte traversière, une clarinette, une trompette. Et ensuite, on va le travailler avec l'oreille pour essayer de le reconnaître, de reconnaître le timbre parmi tant d'autres. Et notamment avec le carnaval des animaux ou Pierre et le loup, où souvent un instrument est associé à un personnage. Et c'est assez intéressant, souvent aussi pour les plus jeunes, puisque les animaux, ça leur parle beaucoup.
On va écouter justement deux des animaux du carnaval de Camille Saint-Saëns, un très rapide et un très lent. L'Hermione et les tortues, deux extraits du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, dans l'interprétation des musiciens de l'Orchestre Les Siècles avec François-Xavier Roth, qui est venu la semaine dernière ici au Grand Théâtre de Provence, où Radio Classique a installé son studio et où nous accueillons ce soir Solène Loi et Marc-Olivier Dupin. Alors Solène Loi, vous utilisez ce Carnaval des animaux dans le cadre des ateliers que vous animez pour les enfants. Quels sont les animaux préférés dans ce Carnaval des jeunes auditeurs?
Le lion a beaucoup de succès, ouais. Notamment quand il rugit avec le piano. Ils aiment beaucoup aussi la poule et la tortue.
Voilà, les animaux qui n'ont cessé d'inspirer les compositeurs et qui inspirent notamment encore aujourd'hui Marc-Olivier Dupin. C'est vrai que vous avez une sacrée belle animalerie à votre catalogue. Il y a des cochons, des écureuils, un crocodile, un chat, j'en oublie encore beaucoup. Pourquoi est-ce que les animaux sont-ils si importants dans votre musique, en tout cas dans ces musiques qui sont destinées au jeune public, ces contes musicaux ?
Je crois que ça rejoint ce que disait Solène à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une fascination de l'enfance pour les animaux, en tout cas la représentation des animaux, parce que ils sont tous au fond transfigurés dans le regard de l'enfance, par le regard de l'enfance. je n'écris pas que pour des animaux, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'histoires d'animaux fantastiques et je pense par exemple, j'ai un projet d'écrire sur les histoires comme ça de Kipling. Quand on lit l'univers de Kipling par rapport aux animaux, c'est absolument fascinant, extraordinaire, drôle, profond. Enfin, ça. C'est une façon magnifique de parler de nous, finalement.
Oui, et de faire passer des messages, de mettre en avant des traits de caractère particuliers, ce que faisait d'ailleurs Saint-Saëns dans son carnaval.
Oui.
Alors,
ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que, en écoutant le court extrait, je trouve que, curieusement, dans cette œuvre, Saint-Saëns s'autorise à des choses auxquelles il ne s'autorise pas dans des œuvres beaucoup plus sérieuses. Des dissonances, des citations, des choses comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est presque un espace de plus grande liberté pour lui.
Et finalement, peut-être quand on s'adresse au jeune public, on peut être encore plus libre. Alors, l'un de vos récents spectacles, contes musicaux pour enfants, c'est Le Chat du Rabbin, que vous avez présenté ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, une nouvelle collaboration avec Johann Sfar. Après le Crocodile, Monsieur Crocodile avait beaucoup faim, que l'on a entendu l'année dernière, et puis Le Petit Prince. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce Chat du Rabbin? Vous avez choisi quelques extraits de cette série de bandes dessinées de Johann Sfar.
Alors, la collaboration avec Johann Sfar est très paradoxale dans le sens où il m'a fait une totale confiance sur les choix, ce qui est à la fois formidable et en même temps une très lourde responsabilité. Après avoir beaucoup lu les premiers volumes, j'ai finalement décidé d'arrêter mon choix sur l'intégralité du volume 1 et une bonne partie du volume 2 du Chat du Rabbin. En même temps, tout n'est pas mis en musique parce que ça serait beaucoup trop long. Donc ça revisite, disons, ce volume 1 et une partie du 2.
Et alors, du coup, ce sont des contes qui nous transportent dans l'univers des années 30 jusqu'en Algérie. Vous vous êtes inspiré de musique du Moyen-Orient. Vous avez essayé de recréer un univers musical spécifique.
Alors avant de commencer à écrire, j'ai effectivement regardé beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup d'extraits de musique juive et arabe d'Afrique du Nord. J'ai eu beaucoup de bonheur à faire ça parce que il y a tellement de merveilles, de chefs-d'œuvre dans ces répertoires de tradition orale, mais en même temps qui sont évidemment interprétés par des artistes extraordinaires. C'est aussi ce qui est formidable, c'est que je trouve fascinant en tant que musicien classique, c'est que c'est une façon de s'écouter autrement entre les musiciens dans un même groupe. C'est-à-dire que c'est une façon d'être ensemble qui est absolument magnifique, qui est très exigeante, mais qui est d'un autre ordre que ce que nous donne la partition, avec des portées, des tas de signes atroces qu'on doit respecter. Là, c'est tout à fait un autre état d'esprit, mais ce sont des musiques absolument magnifiques. Alors, je prétends pas du tout avoir glisser complètement dans la vie d'un musicien de tradition orale d'Afrique du Nord, mais c'est en tout cas des musiques que j'ai cherché à capter, ou en tout cas d'en avoir quelques parfums dans ce Chat du Rabbin.
Et alors justement, Solène Loi, quand vous éveillez à la musique ces enfants, vous essayez aussi de mettre en avant ces échanges, la façon dont la musique occidentale et la musique orientale se sont nourries et continuent à se nourrir.
Oui, on a travaillé beaucoup sur ça avec les enfants. Je leur ai parlé beaucoup de musique klezmer, de l'importance de la clarinette, de tous ces instruments qu'on retrouve finalement assez peu l'accordéon dans la musique classique, parce que quand on leur parle de compositeurs, ils nous citent tous Mozart et Beethoven, mais ils avaient...
Ce qui est déjà bien.
Ce qui est déjà bien. Mais tous ne connaissaient pas la musique d'Afrique du Nord, donc c'est vrai que c'est intéressant. L'année dernière, on avait beaucoup parlé du jazz avec Monsieur Crocodile, et cette année, avec Le Chat du Rabbin, ça nous a permis aussi une ouverture sur un autre style de musique.
On va se mettre dans l'ambiance de Monsieur Crocodile l'année dernière, donc un enregistrement qui a été réalisé un petit peu avant, le début de ce Monsieur Crocodile de Marc-Olivier Dupin.
Ce matin-là, Monsieur Crocodile s'est réveillé avec la faim au ventre. Sous le le caillou où il mettait sa viande. Il n'en restait qu'un vieux bout de saucisson sans pain ni confiture. Merde, quel petit déjeuner pourri! Monsieur Crocodile a regardé un peu hors de l'eau. Mais même autour de sa mare, il n'y avait personne à becter. Va falloir sortir faire des courses. Monsieur Crocodile a mis son chapeau et il est parti chercher quelqu'un à dévorer. À chaque fois que Monsieur Crocodile mettait le nez dehors, il s'enrhumait. Saleté de courant d'air. Mais à cause de la loi de la jungle, il n'y avait pas moyen de se faire livrer à domicile. M'en fous, le premier que je croise, je le bouffe et je rentre.
Voilà le début de Monsieur Crocodile. Monsieur Crocodile a beaucoup faim. On a compris qu'il avait faim. Un conte musical de Marc-Olivier Dupin avec ici l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Marc-Olivier Dupin et avec Benoît Marchand dans le rôle du récitant. Nous sommes toujours en compagnie de Marc-Olivier Dupin et de Solène Loi qui nous font le plaisir de passer un moment avec nous dans ce studio de Radio Classique ici au Grand Théâtre de Provence. Donc l'année dernière, c'était Monsieur Crocodile qui a été donné au Festival de Pâques. Cette année, le Chat du Rabbin. C'est un conte musical qui va continuer à vivre parce qu'il a déjà touché des milliers d'enfants. Vous l'avez écrit, je crois, l'année dernière.
Oui, encore une fois, je crois qu'il y a, des attentes par rapport à ce répertoire pour enfants. Donc, ce crocodile a fait pas mal de kilomètres, en effet, à la fois dans la petite version pour quelques instruments et puis dans la version orchestre avec récitant, oui. Oui,
parce que l'année dernière, c'était une version pour petit effectif avec accordéon, notamment. Oui. On parlait de l'accordéon tout à l'heure. Et avec, de nouveau, pour le Chat du Rabbin, Benoît Marchand, qui est un comédien exceptionnel. Vous pensez à lui aussi quand vous composez, ou la rencontre se fait après?
On
travaille ensemble dans la peau des personnages.
On travaille ensemble depuis longtemps, donc effectivement, quand j'écris des choses qui vont être jouées par lui, je pense à lui, en effet.
Alors, Solène Loi, quand vous travaillez avec ces jeunes enfants, vous abordez tous les répertoires. Est-ce que vous les sensibilisez aussi bien à la musique ancienne qu'à la musique d'aujourd'hui, qu'à la création? On peut tout leur apporter, finalement, aux oreilles des enfants.
Ce qui est assez exceptionnel avec les jeunes enfants, c'est qu'ils n'ont pas de barrière et ils sont ouverts absolument à tout. Ce qui peut être plus compliqué avec les plus grands, les lycéens, quand on leur parle de musique classique, ça peut être un peu...
Oui, il y a une période vers l'adolescence un peu difficile.
Exactement. Alors qu'avec les plus jeunes, ils ont envie d'écouter de la musique, ils ont soif d'apprendre et on peut leur faire écouter à la fois du baroque comme de la musique contemporaine et pareil, ils sont toujours aussi émerveillés.
Alors on évoquait la musique instrumentale, mais qu'en est-il de l'opéra? C'est particulier. L'opéra, c'est une façon de chanter qui est tellement éloignée de leur quotidien, de leur univers, qui peut-être peut les surprendre, voire les faire sourire. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils réagissent à l'opéra.
La première fois que je fais écouter un opéra à des jeunes enfants, ils se mettent tous à rire. Et je commence par leur faire écouter La Flûte Enchantée, le duo Papageno-Papagena, et ils rient. Et je leur demande pourquoi. Ils me disent parce qu'il y a un monsieur qui parle, un monsieur qui chante, mais on ne comprend pas ce qu'il dit puisque c'est en allemand. Et c'est comme ça qu'après j'intègre l'opéra dans mes cours. Mais c'est vrai que la réaction est assez amusante et surprenante.
Et il faut du temps pour qu'ils s'habituent à cette projection particulière de la voix?
Non, je n'ai pas l'impression. Ensuite, puisqu'on fait beaucoup également de chant, donc ils ont l'habitude de chanter et d'entendre des chansons, donc finalement ça devient habituel.
Et justement, quand vous écrivez, Marc-Olivier Dupin, pour les enfants, vous faites souvent appel à un comédien, un narrateur. Vous pensez aussi aux voix lyriques, à l'opéra, pour eux, pour le jeune public?
Bon, il m'est arrivé d'écrire des choses, avec des voix lyriques pour un jeune public, oui. En tout cas, Solène vient de dire une chose extrêmement importante, c'est le fait de faire chanter les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans leur découverte de la musique, des musiques. Et je pense que Jules Ferry ne s'y était pas trompé quand il avait demandé à ce qu'une heure de musique existe dans toute la formation primaire des enfants. Donc je crois que c'est une chose très importante que les enfants rencontrent la musique par la pratique du chant choral, pas par le solfège ni la formation musicale, mais par cette pratique universelle et qui est vraiment une source de joie, de plaisir, de découverte, de rapport au langage, de rapport au corps. Donc ça c'est vraiment pour moi la clé de toute l'entrée dans le comme pratique ou comme écoute de la vie musicale.
On devrait instaurer une heure de chant choral tous les jours pour commencer la journée, par exemple, comme ça se fait par exemple dans certains pays nordiques. Alors, on évoquait l'opéra, on va se plonger encore quelques minutes dans le monde de l'opéra. Quels sont les personnages, les héroïnes, les héros d'opéra que les enfants préfèrent, Solène Loi, par rapport à ceux que vous leur avez fait découvrir?
Alors, j'ai des très jeunes enfants, donc élèves, donc je leur parle pas de tous les opéras, mais je dirais que l'opéra qui marche le plus, c'est La Flûte Enchantée, et avec La Reine de la Nuit qui paraît très méchante. Donc je parlerai de La Flûte Enchantée, oui.
Oui, donc il y a La Reine de la Nuit, mais il y a aussi des personnages beaucoup plus sympathiques.
Exactement,
comme ici.
Bist du mir nun ganz gegeben?
Nun bin ich dir ganz gegeben.
Und so sei mein liebes Weibchen.
Nun so sei mein Herzensteufel.
Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein?
Welche Freude wird das sein?
Wenn die Götter uns bedenken.
Wenn die Götter uns bedenken.
Unsere lieben Kinder schenken. Unsere lieben Kinder schenken. Lieben kleine Kinderlein. 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 So liebe kleine Kinderlein. So liebe kleine Kinderlein. Erst eine kleine Papageien.
Dann eine kleine Papageien.
Dann wieder eine Papageien. Es ist das höchste der Gefühle.
Es ist das höchste der Gefühle.
Denn viele, viele.
Le duo Papageno-Papagena de La Flûte Enchantée de Mozart, chanté par Florian Sempé et Sandrine Piau, avec l'Insula Orchestra de Laurence Equilbé. Laurence Equilbé, invité du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec Insula Orchestra et avec Sandrine Piau pour un Messie de Handel, que vous pourrez revivre jeudi soir sur notre antenne, puisqu'il a été capté par les micros de Radio Classique. Alors, nous sommes toujours en compagnie de la violoniste et pédagogue Solène Loi et du compositeur Marc-Olivier Dupin, présent cette année encore ici au Festival de Pâques, dans le cadre de ses programmes pour le jeune public. Qu'est-ce qui donne envie de travailler avec les enfants, Solène Loi? C'est une vocation ou c'est un concours de circonstances, puisque vous êtes musicienne, vous êtes violoniste de formation? Tous les musiciens n'ont pas cette envie ou cette capacité à travailler, parce que c'est un public particulier.
Je dirais que c'est une vocation. J'aimais beaucoup jouer du violon, mais j'aimais aussi beaucoup les enfants, et j'aimais beaucoup leur transmettre, et j'ai trouvé, je pense, l'équilibre parfait, donc continuer la pratique du violon, mais aussi la pédagogie, et aller rencontrer des classes, différents niveaux, et les éveiller à la musique.
Mais qu'est-ce qui est le plus difficile quand on travaille avec des enfants? C'est d'arriver tout de suite à capter leur attention.
Il faut capter leur attention. Ils sont aussi, bon, plus ils sont jeunes, plus la concentration est rapide. Et donc, il faut réussir à avoir plein d'idées. Mais c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup dans... Ils sont actifs pendant tous les ateliers. On fait des body claps, on essaye de travailler avec le corps. On avait fait notamment l'année dernière avec Monsieur Crocodile un body clap sur la musique et on l'avait fait devant les artistes, je me souviens, à la fin du concert. Et là, c'est pareil pour le chat du rabbin. Je veux qu'il s'imprègne de la musique et qu'il ressorte en disant bah, à papa et à maman, voilà tout ce que j'ai appris et j'ai envie de faire de la musique.
Finalement, la destination de ces ateliers que vous animez ici et ailleurs, Solène Loi, c'est d'éveiller les enfants à la musique, d'en faire éventuellement des musiciens pour certains d'entre eux, mais surtout de les éveiller à la vie, à la société, de développer des tas de valeurs que la musique permet de
faire
passer.
C'est les éveiller à la musique, leur donner envie d'aller au concert, leur montrer que c'est accessible et que tout le monde peut y aller, qu'on n'a pas besoin de connaître forcément les instruments, de connaître les partitions. Et c'est leur donner aussi des vocations. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer un atelier autour des mystères du violon. Et donc, 10 violonistes débutants ont eu un violon pendant une heure entre les mains. Et 3 sont repartis en disant « je veux faire du violon ». Et ça, j'avais tout gagné.
Voilà, donc vous travaillez ici au Festival de Pâques, tous les ans, en tout cas depuis l'année dernière, on imagine, parce que quand Dominique Bluzet parle de vous, le co-directeur du festival, il a les yeux qui brillent, donc on imagine que cette aventure est vouée à se poursuivre. Vous travaillez également au sein de l'Académie Jarouski, donc vous formez de jeunes apprentis violonistes.
Exactement.
Quelle tranche d'âge?
Ce sont des enfants, si je ne dis pas de bêtises, qui ont entre 7 et 12 ans, et pendant 3 ans, ils ont accès à 2 heures de cours d'instruments par semaine. Et pour certains, après, rentrent au conservatoire. Donc, c'est une vraie opportunité pour eux.
Et c'est des enfants qui viennent de quel milieu? Pas forcément des milieux habitués.
Exactement.
À la musique.
Exactement. Ce sont des enfants qui viennent de milieux très défavorisés, qui ont des histoires assez compliquées. Et en fait, la musique, c'est un moyen pour eux d'extérioriser et de faire de belles rencontres, d'aller à des concerts, puisqu'ils ont des offres, notamment au Théâtre des Champs. Donc c'est une belle opportunité pour eux.
Et comment les voyez-vous évoluer humainement, psychologiquement, ces enfants au fur et à mesure des mois où ils s'éveillent à la musique, où ils jouent d'un instrument? Qu'est-ce qui change en eux?
Alors il y a certains enfants on a un peu de tout, certains enfants qui sont très sensibles et qui ne parlent pas au début, et donc en commençant le violon à travailler, vont s'ouvrir et viennent après très souriants au cours, et d'autres qui sont un peu hyperactifs et qui apprennent vite à se calmer, parce qu'on apprend en musique qu'il faut se poser, qu'il faut être calme avec un instrument dans les mains. Donc on a un peu de tout, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils sont toujours heureux de venir à l'Académie Jarouski.
Voilà, donc des enfants qui vous inspirent et que vous inspirez, Solène Loi, qui vous inspire aussi, Marc-Olivier Dupin. Donc il y a eu le chat du rabbin, et donc le prochain conte musical inspiré par Kipling avec de nouveaux animaux, c'est cela? C'est celui que vous êtes en train de préparer?
Pas encore, parce que
il est en train de germer.
Je procrastine.
Mais est-ce qu'il y aura une prochaine création à venir?
Oui, il y a deux, en tout cas, il y a plusieurs choses, mais il y a deux créations qui sont prévues. Effectivement, sur les histoires comme ça de Kipling. Et puis un autre projet avec l'Orchestre National d'Île-de-France qui est Émile, d'après un texte de Vincent Cuvelier, des dessins de Ronan Badel, qui sont des histoires d'un petit garçon qui sont extrêmement drôles. Et on a déjà fait une série d'une dizaine il y a quelques années. Là, on refait une sorte de Émile 2
le retour
pour l'Orchestre National d'Île-de-France au printemps prochain.
Oui, avec toujours, on l'a pas évoqué, mais il y a ce rapport à l'image, hein, comme avec le chat du rabbin,
absolument.
Parce que ce sont des contes pour...
Ouais.
Récitants, musiciens et dessins.
Oui, absolument.
Il y aura quelques reprises aussi. Alors, j'ai noté sur l'agenda, vous me dites si c'est correct, Marc-Olivier Dupin. Alice Swing avec des collégiens le 28 mai au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Oui.
À Lille, au mois de juin, les Animaux Limonades, la première fois que je suis née, avec l'Orchestre National de Lille. Donc, ce sont des reprises de spectacles qui ont déjà été créés, mais
tout à fait,
qui mûrissent, qui évoluent, qui...
Oui, bah écoutez, c'est agréable, évidemment, pour un compositeur, c'est très agréable que les œuvres soient reprises et voyagent, donc je suis très heureux de tout ça, et puis des choses aussi plus sérieuses, je garde...
Vous n'écrivez pas que pour les enfants.
Non.
Ceci dit, c'est sérieux d'écrire pour les enfants.
Tout à fait, absolument. Mais j'aime aussi, par exemple, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur La Légende des siècles de Hugo, et ça c'est un projet inoubliable dans mon chemin de compositeur, de travailler sur des grands textes, en l'occurrence avec la Garde républicaine, c'était une très belle aventure. Mais...
Voilà, et puis il y aura Le Petit Prince aussi en version quatuor qui sera donné dans différents festivals. On parle de spectacle pour les enfants, mais évidemment que leurs parents, les adultes, viennent avec beaucoup de plaisir, avec une autre lecture, parce que ce sont des spectacles aussi qui nous amènent à réfléchir, comme c'est le cas du chat du rabbin qui sera redonné, le chat du rabbin.
Écoutez, je ne sais pas, vous avez l'air très très au courant, beaucoup mieux que moi.
Moi j'ai regardé celui-ci, mais je n'ai pas vu de reprise du chat du rabbin, parce que non, je pense que c'est un spectacle qui peut encore toucher...
À ma connaissance, il n'y a pas de chat en route, mais...
Peut-être plus tard.
Oui, pas de problème, pas d'urgence.
Merci infiniment Marc-Olivier Dupin et Solène Loi d'avoir passé un moment avec nous. Merci au public du Grand Théâtre de Provence qui nous a tenu compagnie. Merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation de ce journal du classique. Rendez-vous demain à 13h, toujours dans le hall du Grand Théâtre de Provence, pour l'enregistrement de cette émission. Et nous serons demain en compagnie de la pianiste Elisabeth Leonskaya. Très belle soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.